chers auditeurs et chères auditrices, bonjour. Nous continuons notre nouvelle série très importante concernant « Reviens à celui qui t'a sauvé ». Nous arrivons à l'étude numéro 3. Et aujourd'hui, donc, c'est la suite de l'étude numéro 2, la suite de notre rétrograde, rappelez-vous. Chers amis, les carillons se sont mis à sonner dans son âme, mais il y a toujours un obstacle immense. C'est-à-dire, c'est de retrouver sa famille chrétienne, son église qu'il avait abandonnée et ses amis. Il recule à la honte d'avoir à les rencontrer. Il craint leur réaction et on le comprend. Il se pose la question, seront-ils froids et distants? Essayeront-ils de l'éviter? Ou seront-ils très critiques? Il se souvient d'une histoire qu'il avait lue dans l'Ancien Testament de Naomi. Lorsqu'elle est retournée à Bethléem, après s'être retirée pendant un temps dans le pays de Moab, le peuple dit, « Voyons, est-ce vraiment Naomi? Est-ce possible? Qu'est-ce qu'elle a changé ?» Et Naomi a répondu, « Ne m'appelez plus Naomi, appelez-moi Mara, ce qui signifie amertume et tristesse, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. » J'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramène maintenant, les mains totalement vides. Ruth, chapitre 1, verset 18 à 21. J'ai pris cela dans ma version allemande, mais rassurez-vous, c'est à peu près pareil chez vous. Alors, notre rétrograde se dit, mais, ça c'est exactement moi. Oui, appelez-moi amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ. Le Seigneur m'a ramené les mains vides. Mais les craintes de savoir comment sa famille et ses amis l'accueilleront sont évidemment sans fondement, car ils le reçoivent d'une façon merveilleuse, presque un peu comme s'il revenait d'entre les morts. Ils lui serrent chaleureusement la main, certains l'entourent même de leurs bras, et les larmes coulent sans contrainte. Aucun reproche, personne pour lui rappeler « Oh, je te l'avais bien dit !» Oui, tous sont réellement heureux, heureux de le revoir. Alors il essaye d'exprimer son regret d'avoir déshonoré le nom du Seigneur, du tort qu'il a causé aux siens et de la peine qu'il a fait aux chrétiens de l'église locale. Mais il l'interrompt en l'assurant de leur pardon. Ils sont remplis de gratitude pour l'exaucement de leurs prières, car la plupart d'entre eux ont prié tous les jours pour lui, pour le ramener. Ça, c'est merveilleux. et ça me rappelle qu'il est dit « Si deux ou trois seulement sont d'un esprit 100% d'accord, d'accord dans leur âme et esprit, pour une chose bien déterminée, et qu'ils prient, eh bien, le Seigneur répondra. » C'est la Sainte Bible qui vous le démontrera. Mais revenons à notre rétrograde. Il pensait qu'il le ferait peut-être ramper, mais les voici bien au contraire. Il l'entoure avec beaucoup d'amour et de compassion. Gloire à Dieu. Il n'a plus qu'une seule pensée. Combien c'est merveilleux d'avoir retrouvé la communion avec le Seigneur et son peuple, d'avoir retrouvé aussi la joie de son salut et de connaître le baiser du Père. En fait, cela pourrait ressembler à une nouvelle naissance. Et la pensée a traversé son esprit. Il s'est dit, oh, d'un instant très bref, est-ce que j'étais vraiment, vraiment, d'une façon véridique, est-ce que j'étais vraiment converti? C'est la pensée qui traverse son esprit, voyez-vous. Mais cette question, elle paraît être purement théorique, évidemment, car vous devrez comprendre que s'il n'avait pas été converti auparavant, eh bien, on peut dire en tout cas une chose, il est à présent, aujourd'hui où il est revenu, il est plus que jamais sauvé. Et c'est cela qui est évidemment important. Un sentiment de soulagement l'envahit. Ne plus tenir tête au Seigneur, ne plus être aussi fier et si peu disposé au brisement, et ne plus fuir. Oh, il a du mal à réaliser. La plus belle robe, il se rappelle, la plus belle robe, un anneau au doigt, des chaussures magnifiques aux pieds, sans compter le veau gras. Cette joie qui commence maintenant ne prendra plus jamais fin. De plus, il n'y a pas de frères aînés qui boude le retour du prodige. Chers amis, il est, on peut dire, merveilleux d'être de nouveau en communion avec le Seigneur. Et cependant, cela ne signifie pas, non, que désormais il n'y ait plus aucun problème à l'avenir. Beaucoup de croyants qui ont retrouvé le contact avec Dieu passent par des moments terribles de condamnation, de doute et même de dépression. Ils ont du mal, beaucoup de mal à croire qu'ils ont été réellement pardonnés. Oh, que vous vous appelez Henri ou Sabine, ou Josiane, ou Francine, eh bien, sachez simplement que le Seigneur nous reprendra toujours dans ses bras. Toujours. Nous sommes ses enfants pour l'éternité. Voyons maintenant un peu de plus près certaines des difficultés. Évidemment, il y en a. Premièrement, comment puis-je savoir que Dieu m'a vraiment pardonné. Eh bien, vous pouvez le savoir, car la sainte parole de Dieu l'affirme très clairement. Dieu a promis à plusieurs reprises de pardonner à tous ceux qui confessent et qui abandonnent leurs péchés. Il n'y a au monde rien de plus sûr que la promesse de Dieu. Pour savoir que Dieu vous a pardonné, vous devez croire à sa sainte parole. Écoutez, s'il vous plaît, les promesses suivantes. Notez Proverbe, chapitre 28, verset 13. Là, il est dit que celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Et ça continue. Notez Ésaïe, chapitre 44, verset 22. Il est dit, « J'efface tes transgressions comme un nuage et tes péchés comme une nuée. Alors, reviens à moi, car je t'ai racheté. » Et continuez de noter Ésaïe 55, verset 7. Là, il est dit que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne tout simplement à l'Éternel qui aura pitié de lui, oui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Et notez Osée, chapitre 6, verset 1. Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Et encore, la première épître de Johannes, de Saint Jean, chapitre 1, verset 9. Il est dit, si nous confessons, vous et moi, tous nos péchés, le Seigneur est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Deuxièmement, il se pose la question, « Oh, je sais que Dieu m'a pardonné lorsque je me suis converti, mais quand je songe au péché grave que j'ai commis alors que j'étais maintenant un croyant, il m'est difficile de croire que Dieu peut me les pardonner encore. Il me semble avoir péché de façon délibérée. Délibérée, on peut bien le dire, contre Dieu. Eh bien, notez les indications bibliques suivantes. Pour commencer, 2 Samuel, chapitre 12, verset 13. David a commis l'adultère et même le meurtre. Cependant, le Seigneur lui a totalement pardonné. Notez maintenant Saint Jean, chapitre 18, verset 15, jusqu'au verset 27. Mais je dirais juste une phrase. L'apôtre Pierre a renié le Seigneur par trois fois. Cependant, le Seigneur lui a tout pardonné. Le pardon de Dieu ne se limite donc pas à ceux qui ne sont pas sauvés, mais Dieu promet également son pardon aux rétrogrades. Notez maintenant Osée, chapitre 14, verset 4. Il est dit, je réparerai leurs infidélités et j'aurai pour eux un amour sincère, car ma colère s'est détournée d'eux. Donc, mes chers amis, si Dieu a pu nous pardonner alors que nous étions ses ennemis, je vous pose la question, nous pardonnera-t-il moins maintenant que nous sommes devenus ses enfants? Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Romains, chapitre 5, verset 10. Donc, ceux qui ont peur que Dieu ne puisse leur pardonner sont beaucoup plus près du Seigneur qu'ils ne le pensent, parce que Dieu ne peut résister à un esprit qui est brisé. Ésaïe, chapitre 57, verset 15. Oui, il résiste, surtout aux orgueilleux, ainsi que à ceux qui ont le cou raide, qui sont orgueilleux, fiers, machos, mais il ne dédaigne pas l'homme ou la femme qui est réellement contrit. Psaume 51, verset 17. Troisièmement, chers amis, il se dit oui, mais combien de fois Dieu pardonnera-t-il? Car j'ai commis un certain péché et Dieu m'a pardonné. Mais malheureusement, je l'ai commis plusieurs fois depuis. J'ai honte de l'avouer. Il me semble que Dieu ne peut sûrement pas pardonner indéfiniment. À première vue, on pourrait penser oui. On pourrait même penser que c'est tout à fait normal, qu'il ne pardonnera plus jamais. Eh bien, chers amis, une réponse indirecte à cette question se trouve dans le texte suivant. Alors, l'apôtre Pierre s'approcha de lui, de Jésus, et il dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? » Jésus lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Saint Matthieu, chapitre 18, versets 21 et 22. Le Seigneur nous enseigne la véritable mesure du pardon. Non pas 7 fois, mais 70 fois 7. Ce qui est une autre façon de dire que nous ne devons pas nous lasser de pardonner. Maintenant, supposons que Dieu nous enseigne de pardonner aux autres sans nous lasser. Comment lui ne nous pardonnerait-il pas? Voyez-vous, on a le droit de se poser la question. Et la réponse va devenir évidente. Et savoir cela ne devrait pas nous rendre insouciants, surtout pas, ou nous encourager à commettre un péché. Mais bien au contraire, une grâce qui est aussi merveilleuse et totalement une raison formelle de nous convaincre pour empêcher le croyant de commettre un péché. Quatrièmement, vous vous dites peut-être, oh, le problème, c'est que je ne me sens pas du tout pardonné. Chers amis, il n'était jamais dans l'intention de Dieu que l'assurance du pardon puisse venir uniquement des sentiments. À un moment donné, vous pouvez vous sentir pardonné, mais il y a des moments dans la journée ou dans la semaine où vous pouvez vous sentir encore plus coupable que jamais. Ça peut arriver. Or, Dieu veut que nous sachions que nous sommes vraiment pardonnés. Et ainsi, il a fondé l'assurance du pardon sur le fait le plus digne de foi, le plus digne de foi qui soit au monde, c'est sa propre parole. Gloire à Dieu. Sa sainte parole, ainsi que sa sainte Bible. Elle dit que si nous confessons nos péchés, il nous les pardonnera. C'est écrit noir et blanc dans 1er épître de Saint Jean, chapitre 1, verset 9. Donc l'important, c'est d'être pardonné. Que vous le sentez ou non, une personne peut en effet se sentir pardonnée et cependant croire qu'elle ne l'est pas. Dans ce cas, ce sont ses sentiments qui la trompent. D'autre part, une personne peut être réellement pardonnée et cependant absolument ne rien sentir. Je vous pose la question, quelle différence cela fait-il? Or, l'essentiel, c'est que Dieu vous a pardonné. Donc, le rétrograde repentant, il peut ou elle peut savoir qu'il est pardonné en s'appuyant sur l'autorité la plus sûre qui soit, c'est-à-dire la sainte parole du Dieu vivant. Cinquièmement, en m'étant éloigné, rappelez-vous, puisque je suis rétrograde dans l'histoire, en m'étant éloigné de Dieu, je crains d'avoir commis un péché qui ne peut être pardonné. Eh bien, le fait de rétrograder, ce n'est pas un péché qui ne peut plus jamais être pardonné. En réalité, en effet, il y a au moins trois péchés qui sont mentionnés dans le Nouveau Testament qui ne peuvent pas être pardonnés, mais seuls, alors écoutez bien avec les oreilles dressées, mais seuls les incroyants peuvent commettre ces terribles péchés-là. Premièrement, par exemple, de attribuer au diable, à Satan, les miracles que Jésus a accomplis par la puissance du Saint-Esprit, ça, c'est un péché qui ne peut pas être pardonné. Car cela voudrait dire que le Saint-Esprit est le diable. Et c'est pourquoi c'est un blasphème contre le Saint-Esprit. Notez Saint Matthieu, chapitre 12, versets 22 à 32. Deuxièmement, notez Hébreux, chapitre 6, versets 4 à 6, ainsi que Hébreux, chapitre 10, verset 29. Donc, affirmer que l'on est croyant et ensuite rejeter complètement Jésus-Christ, ça, c'est un péché qui ne peut être pardonné. Voyez-vous, c'est le péché d'apostasie. Ce n'est pas la même chose que de renier Jésus-Christ. Car l'apôtre Pierre, rappelez-vous, il a renié Jésus, mais le Seigneur l'a totalement rétabli. Donc, foulé aux pieds, je dis bien délibérément, le Fils de Dieu, ça c'est considérer son sang comme une chose profane. C'est outrager l'Esprit Saint de la grâce. Troisièmement, notez Saint Jean, chapitre 8, verset 24. Mourir, par exemple, en refusant totalement de croire en Jésus-Christ, ça, c'est aussi, qu'on le croit ou pas, c'est aussi un péché qui sera sans pardon. C'est pas moi qui le dis. Notez Saint Jean, chapitre 8, verset 24. Supposons que vous avez un parent ou une personne chrétienne ou une personne qui ne fait pas partie d'aucun mouvement religieux, Mais vous connaissez bien cette personne, vous l'aimez depuis longtemps, vous êtes un peu ami avec, et voilà que cette personne se trouve sur le lit de mort, et vous lui parlez du Seigneur, car elle va mourir. Cette personne refuse totalement la main tendue. Elle refuse de croire en Jésus-Christ. Eh bien, elle est condamnée. C'est un péché sans pardon. Je répète, Saint Jean chapitre 8, verset 24. Voyez-vous la différence entre un croyant authentique, je dis bien, et une personne qui est pas convertie, pas sauvée, c'est que le premier peut tomber 7 fois, c'est à nouveau pas moi qui le prétends, c'est écrit, mais qu'il peut toujours se relever chaque fois. Incroyable, mais vrai. L'Éternel affermit les pas de l'homme et il prend plaisir à sa voix. S'il tombe, eh bien, il n'est pas terrassé. Et je dis terrassé totalement. Car l'Éternel lui prend la main. Alléluia. Notez le psaume, chapitre 37, versets 23 et 24. Car 7 fois, le juste peut tomber, mais il peut aussi se relever. Mais les méchants, eux, ils sont précipités dans le malheur. Notez le proverbe, chapitre 24, verset 16. Et sixièmement, vous vous dites, oh, je crois, bien sûr, je crois que Dieu m'a certainement pardonné. Mais je ne peux pas, moi, me pardonner à moi-même. Eh bien, voyez-vous, pour celui qui a rétrogradé, et existe-t-il, je vous le pose la question, existe-t-il un croyant qui ne l'ait jamais fait dans une certaine mesure? Cette attitude est tout à fait compréhensible. Nous ressentons notre propre indignité et notre faillite totale, et cela d'une manière surtout intense. Et pourtant, oui, pourtant, cette attitude n'est pas très raisonnable. Car si Dieu nous a vraiment pardonnés, pourquoi devrais-je accepter de continuer d'être tourmenté par des sentiments de culpabilité? La foi, elle s'approprie un pardon de fait et ne pense plus du tout au passé, sauf pour y voir un avertissement salutaire afin de ne plus s'égarer loin du Seigneur. Et je me rappelle, il me semble, que j'ai lu dans le vieux livre que Dieu ne pardonne pas seulement, mais en plus, il envoie nos péchés au fond de la mer pour ne plus jamais les retrouver. Chers amis, maintenant, quelles sont évidemment les conséquences? Car il y en a, évidemment. Quelles sont les conséquences de la régression spirituelle? Eh bien, à la lumière de ce qui a été dit, l'idée pourrait se répandre qu'un chrétien peut commettre un péché et s'en tirer plus ou moins facilement. En d'autres termes, tout ce qu'il doit faire, c'est de confesser son péché et l'abandonner. Eh bien oui, cela paraît être assez facile. Pardonnez-moi. Cela paraît parfois même être trop facile. Et c'est pourquoi il est très important qu'une fois encore, nous puissions faire la différence entre le pardon du péché et les conséquences du péché. Je répète, la différence entre le pardon du péché et les conséquences du péché. En ce qui concerne le pardon, nous avons déjà noté que l'on peut le classer en deux catégories, le pardon d'un juge et le pardon d'un père. Lorsque un individu croit en Jésus-Christ comme étant son Sauveur et Seigneur, il reçoit le pardon de ses péchés et ce pardon satisfait la justice de Dieu. Cela veut dire que Dieu le juge. Dieu le juge, car Dieu est un juge. Et Dieu lui a pardonné sur la base de l'œuvre de son Fils Jésus-Christ qui est mort à la croix et qui a versé son sang précieux pour nos péchés. Notez Saint Jean, chapitre 3, verset 18. Donc, le pécheur qui croit en Jésus-Christ n'aura jamais plus à payer la rançon de ses péchés puisque le Sauveur l'a payé à la croix. Notez 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 21. Donc, lorsque un croyant commet un péché et il confesse le péché qu'il a commis, il reçoit donc le pardon du Père Céleste, le pardon de Dieu. Ceci veut dire que Dieu le Père lui pardonne, lui a pardonné, et Dieu le rétablit dans la communion de la famille de Dieu. Premier épître de Saint Jean, chapitre 1, verset 9. Mais, nous devons nous souvenir que le péché a des conséquences et que ces conséquences ont malheureusement leur prolongement, et oui, dans la vie et dans l'éternité. Cela paraît incroyable, mais c'est la vérité. On ne vous prêche pas souvent cette partie-là, très importante, de la parole de Dieu. On peut donc en trouver une illustration dans la vie de nombreux personnages de la Sainte Bible. On n'en citera que quelques-uns. Abraham, il a pris pour femme Agar, et cela dans une période de régression spirituelle, alors qu'il était en Égypte. Genèse chapitre 16, versets 1 à 16. Et depuis ce jour-là, ses descendants, qui sont les Ismaélites, sont devenus les ennemis acharnés du peuple de Dieu. C'est pas moi qui le dis, c'est écrit. Donc la régression spirituelle de Lot, rappelez-vous l'histoire de Lot, elle a eu pour résultat pas seulement la perte de sa femme, mais également de ses gendres et de son témoignage. Et en plus, il a failli de perdre sa propre vie, selon la Genèse, chapitre 19, versets 14 à 26. En plus, c'est même pas terminé, Lot, ce qu'il a fait, il est devenu aussi par sa faute le père des Moabites et des Ammonites, qui sont des ennemis cruels du peuple de Dieu. Notez la Genèse, chapitre 19, versets 33 à 38. Nous avons le fameux Samson. Il a perdu sa chasteté. Il a perdu sa liberté. Il a perdu son témoignage. Il est devenu totalement aveugle. Et finalement, il a perdu la vie. Juges, chapitre 16. Nous avons Naomi. Elle fut privée de son mari et même de ses deux fils, car ils sont morts tous les trois. Notez Ruth, chapitre 1, versets 3 et 5. Et bien entendu, nous avons le roi David. David a connu le pardon de ses péchés, mais il a été obligé de payer au quadruple le fameux meurtre de Uri, car quatre de ses enfants sont morts. L'enfant qui est né de Bathsheba, mourut. 2 Samuel, chapitre 12, verset 19. Amnon a été mis à mort par Absalom. Absalom fut mis à mort par Joab et ses 10 compagnons, Adonija a été mis à mort par Benaja. Dieu a fait savoir à David, par la voix de Nathan, que l'épée ne s'éloignerait jamais de sa maison. Et il en a été ainsi. 2 Samuel, chapitre 12, verset 10. Dieu n'a donc pas permis à David de construire le merveilleux temple parce qu'il avait versé beaucoup trop de sang sur la terre. 1 Chronique, chapitre 22, verset 8. Donc, chers amis, les conséquences du péché se font encore sentir aujourd'hui parce que il a rétrogradé, il a fait blasphémer les ennemis de l'Éternel. 2 Samuel, chapitre 12, verset 14. Donc, de nos jours, les athées continuent de blâmer Dieu. Ils blâment Dieu parce que Dieu appelle David un homme selon son cœur. Incroyable, mais vrai. Même après qu'il avait agi avec tellement de méchanceté. Voyez-vous, qui peut mesurer les conséquences de la régression spirituelle? Qui? Pensons un peu au temps passé en dehors de la communion avec Dieu, par exemple, et à la perte de la récompense lors du tribunal de Christ. Notez 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 10. Et que en est-il, chers amis, de l'influence qu'un rétrograde exerce, serait-ce que sur son entourage? Combien de personnes a-t-il fait tomber par son exemple? Il y a actuellement un homme célèbre aux États-Unis qui a gagné de nombreux Oscars. Donc, il a fait, ou il a donné la possibilité à des jeunes femmes de devenir actrices de cinéma. Un auteur célèbre, que des dizaines et des dizaines de femmes accusent maintenant de les avoir agressées sexuellement d'une façon épouvantable, car il a commis des choses sexuelles abominables. Oui, combien de parents ont vu leur péché se reproduire même dans leur famille et même leurs enfants se sont détournés de la foi à cause de ce qu'ils ont fait. Quel prix, je vous le demande, quel prix est à payer pour les quelques instants où l'on s'est abandonné au péché, où l'on a oublié un instant qu'on devrait ne pas faire certaines choses. Et que dire des occasions qui ont été manquées, les larmes les larmes ne pourront jamais permettre que tout cela puisse être retrouvé. Oui, qui peut, chers amis, décrire le remords du rétrograde? Car c'est une chose qui est difficile d'oublier. Qui peut raconter les angoisses de sa conscience? Qui connaît la souillure de la mémoire et de l'esprit qui réapparaît souvent au cours de certains moments de notre vie, parfois même pendant que nous nous trouvons en prière? Nous terminons notre étude. Voyez-vous, toutes ces choses nous rappellent définitivement qu'un chrétien ne peut pas commettre un péché vraiment à bon compte. Il est toujours vrai que celui ou celle dont le cœur s'égare un instant se rassasie de ses voies. Notez le proverbe 14, verset 14. Les saintes écritures et l'expérience nous disent, nous montrent que ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera tôt ou tard, selon ma version allemande. Notez Galates, chapitre 6, verset 7. Chers amis, maintenant, j'aimerais vous transmettre quelque chose pour vous aider, pour vous encourager, mais aussi pour votre éducation spirituelle personnelle. Écoutez bien. Jésus veut guider vos efforts. Vous n'êtes pas en train d'être puni pour vos péchés d'autrefois. Rappelez-vous. Alors, recevez librement ces paroles qu'il vous fait connaître chaque jour depuis le commencement, et conformez-y votre conduite. En cela, Jésus vous a montré le chemin, mais en cela, vous ne lui avez pas obéi. Alors le Seigneur a pour vous un plan qui ne peut vous être révélé que de cette façon-là, c'est-à-dire dans l'obéissance. Il trouve vraiment rarement deux âmes qui sont absolument unies, unies dans la recherche de sa sainte volonté. pour ne le servir que lui seul. Et quand cela existe, que deux âmes puissent s'unir d'un seul esprit, d'une seule âme, eh bien le Seigneur exaucera votre prière. Oui, c'est vrai. Jésus vous a dit qu'il avait le grand désir de vous utiliser. Il y a fort longtemps que le monde terrestre qui lui appartient lui aurait été rendu si cette union de deux âmes en lui s'était opérée beaucoup plus fréquemment. C'est deux à deux, rappelez-vous, qu'il a envoyé ses disciples et qu'il vous envoie aujourd'hui. Notez Saint Marc, chapitre 6, verset 7, et Saint Luc, chapitre 10, verset 1. Chers amis, nous allons prier maintenant. Approcher de Dieu, cela, c'est tout mon bien. C'est ce que disait David. En effet, c'est là le bien que rien ne peut ravir, le bien qui seul peut combler les désirs de notre âme, le bien sans lequel la jouissance des plus riches trésors et des plus douces affections n'est que tourment et rongement d'esprit. Le pauvre qui sait s'approcher de Dieu possède les plus inestimables richesses, tandis que le riche qui demeure privé de ce bien invisible et mystérieux, il est en proie à la plus déplorable pauvreté. Puissions-nous, mes chers amis, tous faire l'heureuse expérience de ces grâces préparées par le Seigneur pour tous ceux qui l'aiment. Que nos prières ne partent pas seulement de nos lèvres, mais que nos cœurs te les présentent, ô notre Dieu, en approchant véritablement de toi lorsque nous t'invoquons, non seulement pour nous-mêmes, mais pour tous ceux qui nous sont vraiment très chers. Amen. Chers amis, rappelez-vous que Dieu vous aime. Et de ce fait, il est de mon devoir de vous aimer de tout mon cœur. Et maintenant, je vous embrasse tous, vous qui écoutez ces messages, car il y en a plusieurs milliers que vous trouverez sur 3xW Bible explique en un seul mot .ch et vous serez bénis. Et je vous embrasse, je vous ai dit, avec tout mon cœur, et je vous dis, soyez bénis. À demain matin pour la suite de ces études. Et je vous mets maintenant quelques chants d'un très lointain passé, figurez-vous, 1954. Il y a un bout, j'étais un jeune homme, j'avais enregistré cela. Oh, les appareils n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui. Et évidemment, par le temps qui a passé, la qualité a évidemment diminué. Mais le Saint-Esprit s'y trouve et vous serez bénis d'écouter. À bientôt, mes très chers amis.
Jordan roll, roll, Jordan roll. to go to heaven when I die, to hear Jordan roar. Roar, Jordan, roar. Roar, Jordan, roar. I want to go to heaven when I die, to hear Jordan roar.
It is so high,
so high, you can get low.
It's so
wide, you can get wide.
It's so low,
so low, you can get down.
You might as well
come in at the door.
The gate is high,
so high, you can get low.
The gate is wide,
so wide, you can get wide.
It's so low,
so low, you can get down.
You might as well
come in at the door.
Well, I went down in the valley, you know I did, I wanted to stay. My soul could have in the valley, you know the sweet of the world of day. The gate is
high,
it's so wide,
you can get wide.
It's so low,
so low, you can get down.
You might as well
come in at the door.
You laugh and been to heaven, but I've been told the three hours. You know the gate of glow, the gate is high. It's so wide, it's so low. You might as well, the gate is high. It's so wide, it's so low.
Rolling the great big wheel down in low.
Is it your
and soul are we're a roaring, we're the mill of the air. Ezekiel soda, we're a roaring, the great big wheel of darling low. Ezekiel soda, we're a roaring, we're the mill of the air.
Well, great God Almighty, the Bible declares, Ezekiel saw the wheel in the middle of the air. The great big wheel and the little big wheel, the wheel turned low in the middle of the wheel. The good book says that the book don't lie. God told Ezekiel to prophesy. The mighty God spoke in Ezekiel's mind. He raised his voice and began to cry.
Be quiet, all bones.
All bones are walking
with God Almighty, the whole bones talking.
Bones, 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 walking every now, bones.